On les appelle les mailloticiennes, les mailloticiens, ou plus souvent les sages-femmes. En France, elles sont actuellement plus de 23 000 à exercer, dont 97% de femmes. Nous avons rencontré Adeline Hesse-Legalic, sage-femme installée en libéral à Pontivy. Elle nous a tout d'abord expliqué pourquoi et comment elle avait choisi ce métier.
Le métier de sage-femme, moi je pense qu'en fait je veux le faire depuis que je suis toute petite. Alors, il y en a pas beaucoup qui savent assez jeune, mais j'avais une vision, je voulais être pédiatre quand j'étais petite, mais en fait je me rends compte que la vision de pédiatre que j'avais quand même était plutôt du côté des femmes et des enfants ou des nouveau-nés. Et puis j'ai découvert le métier de sage-femme en fait avec la maman d'une amie qui était sage-femme et que j'ai rencontrée et à qui j'ai discuté du métier. Et donc dès la troisième, je savais que j'allais m'orienter vers ces études-là. J'ai fait donc une seconde, enfin un lycée général classique en section scientifique avec option sciences de vie de la Terre. Et moi à l'époque, parce que maintenant ça a un peu changé, j'ai passé un concours, j'ai fait une année de préparation au concours de sage-femme parce que c'était encore un concours indépendant. Et après j'ai passé un concours de sage-femme donc qui est national, donc on ne pouvait en passer que un à Nantes. Et du coup j'ai été prise à l'école de sage-femme de Nantes à la suite de cette année préparatoire post-bac en fait.
On évoquait les changements. C'est vrai que quand on entend le terme sage-femme, on pense tout de suite à la grossesse et notamment à la naissance. Et notamment, je crois, depuis 2009, il y a eu beaucoup de changements ou de possibilités de changement pour les sages-femmes.
Tout à fait. En fait, depuis 2009, en fait, il y a eu une ouverture pour les sages-femmes à la gynécologie. Alors, il faut quand même savoir que la gynécologie fait partie de notre cursus. Donc, même moi, si j'ai été diplômée, donc j'ai eu mon diplôme en 2005, j'avais une bonne partie de mes cours théoriques. J'avais des stages en gynécologie, enfin voilà. Mais ça ne faisait pas partie de nos prérogatives primaires de faire du dépistage de la santé de la femme. En fait, effectivement, la sage-femme était avant vraiment axée sur la grossesse physique, physiologique et l'accouchement. Mais depuis 2009, en fait, on a une ouverture à la gynécologie, ce qui veut dire dépistage, que ce soit par palpation mammaire pour le cancer du sein, les dépistages des infections sexuellement transmissibles, les frottis cervico-vaginaux en fait, qu'on recommande tous les 3 ans. Et tout ce qui est contraception aussi, donc la prescription de pilules, la pose d'implants, la pose de stérilets, et donc le retrait d'implants, de stérilets, enfin voilà, de pouvoir aussi proposer, enfin vraiment être, je pense que les sages-femmes sont amenées, et elles le sont déjà quand même beaucoup, notamment dans les déserts médicaux, à avoir une place qui devient prédominante dans la santé de la femme, qui va bien, bien sûr, en bonne santé, pour tout ce qui va être dépistage et prévention, et aussi la mise en place de contraception, d'être auprès des femmes justement pour les accompagner tout au long de leur vie de femme, au niveau gynécologique toujours.
Alors justement, ce changement en 2009, est-ce qu'il a changé la donne concernant le métier de sage-femme? Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus maintenant, depuis, de sage-femme en libéral?
Alors, ça a forcément ouvert un petit peu plus au niveau libéral, mais je pense que c'est plus profond que ça en fait, c'est un changement de la société où quand les femmes avant allaient voir leur gynécologue ou leur médecin traitant, c'est de plus en plus difficile d'avoir un médecin traitant, c'est de plus en plus difficile de pouvoir avoir accès à un gynécologue, et donc finalement la sage-femme se positionne bien dans l'idée d'être le premier, ce qu'on appelle la première étape, c'est-à-dire que moi en tant que sage-femme, je suis certes une profession médicale avec un droit de prescription, mais je ne peux pas m'occuper de la pathologie. Donc moi si je diagnostique quelque chose qui me paraît anormal dans mes examens de dépistage, et je vais pouvoir l'orienter vers le professionnel adéquat pour elle en fait.
Alors oui, on a parlé de la problématique de déserts médicaux, mais on entend aussi régulièrement des expériences désagréables, voire douloureuses, voire même peut-être traumatisantes, de femmes qui ont consulté des gynécologues. On a parfois l'impression que c'est le cas quand le technique ou le mécanique prend le pas sur l'humain, surtout qu'on parle ici bien sûr de l'intimité des femmes. Est-ce que c'est un élément auquel vous êtes confrontée en tant que sage-femme?
Ça peut effectivement nous arriver d'avoir des patientes qui viennent un peu réticentes pour faire une consultation et puis finalement se rendre compte que on peut aussi amener les choses différemment. Alors peut-être que nous, notre cursus et notre formation qui est certes médicale mais qui ne comprend pas autant d'années que les médecins, on a peut-être une approche un peu différente et peut-être plus dans l'accompagnement, mais ça de par notre accompagnement qu'on peut faire au moment des accouchements, enfin voilà, je pense qu'on a peut-être une une vision différente et peut-être moins technicien que peut avoir le gynécologue, mais ou même un médecin traitant. Puis il y a aussi des femmes qui sont tout simplement pas à l'aise d'aller voir un médecin homme, rien que ça. Et donc il y a quand même, en termes de population, il y a plus de femmes chez les sages-femmes que d'hommes. Même si ça commence à devenir, enfin, même s'il y a de plus en plus d'hommes.
Donc plus de femmes chez les sages-femmes et plus d'hommes chez les médecins en gynécologie ?
Je ne pourrais pas vous dire le ratio exact, mais en général, oui, il y a plus d'hommes, en tout cas dans certains bassins. Je ne vous parle pas des grandes villes où effectivement il y a une population qui est relativement éclectique et qui aussi permet de... Vous avez plusieurs professionnels, enfin vous avez du choix. Pour aller voir des professionnels, vous pouvez aller voir un professionnel. Et puis, si le feeling n'est pas passé, si voilà, il y a des attentes qui n'ont pas, les attentes qui n'ont pas été des questions, des questionnements qui n'ont pas été écoutés ou au moins répondus, on a la possibilité de pouvoir aller voir quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que dans les centres-Bretagne, pour ne donner que cet exemple-là que je connais bien, effectivement, c'est compliqué de trouver quelqu'un d'autre quand on a une première approche qui nous a peut-être pas satisfait en termes d'écoute ou en termes de prise en charge. Et ça peut être une alternative d'aller voir une sage-femme, même si, comme je vous dis, j'ai beau avoir des compétences, si c'est hors champ pour moi, mais je peux essayer de trouver un juste milieu pour pouvoir aussi qu'elle puisse être prise en charge correctement, quoi.
Oui, on le comprend, hein, c'est donc pas une opposition entre les gynécologues d'un côté et les sages-femmes de l'autre, mais plutôt une complémentarité qu'on retrouve, on le suppose aussi en maternité. Est-ce que vous-même, vous avez travaillé en maternité avant de travailler en libéral ?
Oui, j'ai travaillé 10 ans à l'hôpital de Pontivy, en fait, où j'ai essentiellement travaillé entre la maternité, enfin, ce qu'on appelle le service de suite de couche, donc l'accompagnement des mamans après l'accouchement, la salle de naissance. Et pendant ces 10 années, 11 ans au CHCB à Pontivy, j'ai aussi été 2 ans en consultation. Donc voilà, j'ai une expérience assez variée, ce qui aussi m'a permis de me conforter dans l'envie de me mettre en libéral pour faire peut-être des choses différemment, mais en même temps j'avais cette expérience des consultations, donc du suivi de grossesse, de la préparation à l'accouchement, voilà, et puis en même temps mon expérience en salle d'accouchement et en accompagnant les patientes aussi dans l'après.
Est-ce qu'en termes de contraception, de protection, vous avez l'impression qu'on est suffisamment informé, qu'on est suffisamment au courant de ce qui existe, ou est-ce que parfois ce sont des sujets qui peuvent être un peu tabous dans notre société actuelle ?
Alors, je pense que tout dépend de l'environnement de la personne, en fait. Vous avez effectivement des familles où la parole va être assez libérée, où moi j'ai des patientes qui m'envoient leur fille pour parler de contraception parce qu'elles se sentent peut-être pas à l'aise avec tous les sujets, mais la démarche est d'informer leur fille. Après, vous dire si c'est... Je pense que c'est forcément plus libéré qu'il y a quelques années, mais c'est sans parler de peur, c'est aussi qu'il y a effectivement une méconnaissance. Et on le voit bien, nous, en consultation, où on peut un peu... mettre à mal des fausses idées ou voilà, notamment le truc typique, c'est qu'on peut pas avoir de stérilet si on n'a jamais eu d'enfant. Donc ça, si, on peut... Et ça, c'est parce que c'est les mamans, les copines, les gens qui ont entendu ça, et puis ça se véhicule, et puis l'information, elle circule sans avoir vraiment été vérifiée. Et donc oui, je pense qu'il y a un peu d'information, mais il y a aussi... elle est coupée un peu, cette information, elle n'est pas complète, en fait.
Et ça, les préjugés, les fausses informations, c'est vraiment au quotidien ?
Je dirais pas au quotidien, mais c'est fréquent, et notamment quand on rencontre des jeunes filles pour parler de contraception, pour mettre en place une première contraception. C'est vrai que les jeunes filles, bah, à part la pilule, elles n'ont pas forcément beaucoup d'idées, donc juste de pouvoir leur proposer, de leur expliquer tout ce qui existe, et puis après elles font leur choix parmi tout ça, parce que finalement si elles n'ont pas de contre-indications, ça reste leur choix et ce sera le meilleur pour elles.
Puisqu'on a évoqué la question des tabous, on sait qu'il y a aussi des maladies gynécologiques, l'endométriose par exemple, qui touche une partie significative de la population, mais qui reste pourtant assez peu connue. Est-ce que vous avez l'impression que ça bouge et que ça évolue dans le bon sens ?
Je pense que ça bouge dans le sens où maintenant les femmes se posent la question, c'est-à-dire qu'elles deviennent un peu plus actrices de leur santé gynécologique. C'est-à-dire que avant finalement, j'ai mal au ventre quand j'ai mes règles, je saigne saignes beaucoup, bon bah voilà, c'est normal, t'as mal au ventre quand t'as tes règles et tu saignes beaucoup. Et maintenant elles vont aller se poser la question, est-ce que c'est normal, et elles vont aussi du coup aller consulter, avoir des démarches. Alors faut savoir que l'endométriose, c'est un diagnostic qui est super difficile à poser, c'est souvent l'IRM qui, donc voilà, on rentre dans les examens, mais au moins il y a une démarche de pourquoi j'ai mal et est-ce que c'est normal que j'ai mal. C'est-à-dire qu'elles se posent des questions qu'elles ne se seraient peut-être pas posées il y a 20 ans, ou après tout, voilà, d'avoir mal, c'est normal. Bah, pas toujours.
Est-ce qu'il y a d'autres pathologies, d'autres maladies gynécologiques qui sont fréquentes et pourtant très peu connues du grand public ?
On parle d'un truc tout simple, les infections sexuellement transmissibles. Par exemple, on informe vraiment beaucoup la population, et notamment la population jeune, de l'importance du dépistage, notamment aux infections sexuellement transmissibles, que peuvent être le chlamydia et le gonocoque. On entend beaucoup parler des prises de sang pour le VIH, enfin, le sida, l'hépatite B, l'hépatite C, mais ça, c'est un prélèvement qui est à faire et que les patientes peuvent se faire toutes seules en fait, sur prescription. Et le fait d'avoir une positivité, en fait, ça va amener un traitement et qui peut limiter les effets pour plus tard. Il faut savoir que notamment le chlamydia comme le gonocoque, hein, c'est les plus fréquentes qu'il y a au niveau infection sexuellement transmissible, peuvent être responsables de problèmes de fertilité plus tard. Donc de pouvoir les diagnostiquer et les traiter rapidement, ça peut être intéressant. Et ce qui est un petit peu traite dans ce type d'infection, en fait, c'est que c'est asymptomatique pour la plupart du temps. Donc à moins de faire un dépistage assez systématique, un changement de partenaire, ou quand on est avec son partenaire et qu'on décide d'arrêter les préservatifs, et bien de faire le point pour tous les deux, aussi bien l'homme que la femme, ou si c'est deux femmes, ou si c'est deux hommes. Enfin, les deux hommes, ça me concerne moins, mais voilà, c'est important de savoir qu'un dépistage, il peut être fait et qu'on peut traiter pour limiter l'impact de ces types d'infections à long terme, en fait. Esparama pelo chão, batatinha quando cresce, bia um baita batatão. Lá no alto da montanha, passa boi, passa boiada, também passa o mocinho. Apaixonada, oh sereia, laranjeira pequenina, sereia, carregadinha de flor, sereia, eu também sou pequenina, sereia, carregadinha de amor, oh sereia, eu adoro o seu sonho, sereia, mas adoro mais os meus, sereia. Se não fossem meus sonhos, sereia, não podia ver os teus, oh sereia. Eu joguei meu barco na água, sereia, carregado de flor, sereia. Não tem nada mais bonito, sereia, que eu sou o hino do meu amor. Oh, sereia, laranjeira, pequenina, pequenina, carregadinha de flor. Eu também sou tão pequenina, carregadinha de amor. Eu joguei meu barco, meu barco na água. Carregado de flor, não tem nada mais nada mais bonito que o zoom do meu amor. Lá tão feira, tão feira, pequenita, pequenita.
Assenildes, ça vient de Arsenium,
eu tão
poison,
tão beso, tão beso, tão
pequenita.
Carregadinha de amor.
Santos da paixão.
Meu pai,
são traduídos assim. Poison de la passion.
Carregado de fulano.
C'est une famille sociale.
Não tem nada,
qu'on croit, qu'on croit pas.
Que usuim do meu amor.
On retourne dans le cabinet d'Adeline S. Le Gallic, sage-femme installée à Pontivy. Comme elle nous l'a expliqué, sage-femme, ce n'est plus seulement accompagner les femmes lors de leur grossesse et pour l'accouchement. Et de plus en plus, les sages-femmes accompagnent toutes les femmes en travaillant de concert avec les médecins, les gynécologues. Mais les possibilités d'exercice par les sages-femmes sont encore amenées à évoluer.
Quand c'est des infections, bactérienne simple au niveau vaginal avec un traitement local, ça je peux traiter. Effectivement, par contre, tout ce qui est infection sexuellement transmissible, je suis obligée de transmettre à un médecin. Alors, les lignes sont en train de bouger. Là, ils parlent de nous ouvrir en fait le droit de prescription des antibiotiques en cas d'infection sexuellement transmissible à chlamydia ou à gonocoque, de pouvoir le prescrire à la patiente et à son partenaire, parce qu'on doit traiter les deux, forcément. Mais là encore, le texte est en cours d'étude. On attend d'avoir des retours pour l'instant pour savoir si, mais je pense que c'est une bonne partie parce qu'on peut faire le dépistage mais on peut pas traiter, donc c'est un peu dommage quoi.
Oui, parce qu'on a parlé de 2009 avec des changements importants pour la profession de sage-femme, mais il y a eu d'autres dates et d'autres lois ou règles assez importantes, notamment concernant l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse.
Alors oui, l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse a été ouverte aux sages-femmes et aux médecins de ville. En fait, il n'y avait pas que forcément les sages-femmes, la possibilité de pouvoir faire une interruption médicale de grossesse par médicament. Une interruption volontaire de grossesse, pardon, par médicament, et gérée avec une sage-femme ou un médecin traitant, même en ville. Après, voilà, il faut s'être rapproché d'un centre de référence quand même pour être en lien avec ce centre, comme ça on pouvait envoyer les patientes en cas de complication ou en cas d'anomalie. Mais oui, ça a été ouvert, et là dans un des projets de loi, il parle aussi d'autoriser les sages-femmes à faire des interruptions volontaires de grossesse, mais ce qu'on dit instrumentales, donc là où on part dans autre chose. Mais bon, là c'est encore loin d'être fait, mais voilà, donc maintenant on a le droit, mais par contre il faut s'être identifié. Donc vous voyez, moi dans mon exercice, je pense que je vais le faire, mais il faut que je me mette en lien avec un centre de référence pour les interruptions volontaires de grossesse, donc Pontivy, Vannes, mais il faut pour qu'on je suive leur protocole et que eux soient mon centre de référence pour réorienter les patientes en cas de besoin.
Alors on a parlé de lois qui étaient en train d'évoluer. Il y a autre chose dont on a beaucoup parlé ces derniers mois et qui est amené à encore un petit peu bouger, c'est bien sûr le Ségur de la Santé. Et dans le Ségur de la Santé, en tout cas dans les premières choses qui avaient été annoncées, plusieurs professions étaient absentes, et c'était donc le cas des sages-femmes.
Alors les sages-femmes étaient, je dirais pas absentes complètement, mais pas très représentés, puisqu'il y a eu beaucoup d'autres professions qui ont été oubliées, les gens qui travaillent dans le médico-social qui ont totalement été oubliés. Donc, mais les sages-femmes étaient peu considérées. Oui, voilà, c'est ça. C'est que, mais après, voilà, les sages-femmes, c'est qu'on est une petite corporation, parce qu'on est finalement pas très nombreuses à l'échelle de d'autres professions comme peuvent être les médecins, comme peuvent être les infirmières. Et du coup, bah, on a toujours tendance un peu à nous oublier, quoi.
Adeline S. Le Gallic, vous nous l'avez dit, vous avez décidé de devenir sage-femme alors que vous étiez adolescente, que vous étiez collégienne. Quand vous repensez justement à ce choix que vous avez fait aujourd'hui en 2021, est-ce que vous diriez que ça correspond à l'image que vous en faisiez ? Est-ce que votre métier, votre profession vous épanouit comme vous l'aviez envisagé ?
Ah, moi, je suis tout à fait satisfaite de mon travail. Je l'exerce encore avec passion et amour, donc le point central étant la femme et son bien-être. Donc je pense que le fait d'être passée en libéral m'a aussi ouvert une autre partie du métier de sage-femme, où on est plus dans de l'accompagnement, on fait aussi beaucoup plus de gynécologie, donc on va vraiment accompagner les femmes dans toutes leurs étapes de leur vie. Il y a des jeunes filles que j'ai commencé à suivre, voilà, et que je commençais à voir pour leur première grossesse, donc voilà, c'est vraiment un métier épanouissant. Et puis l'avantage du libéral, c'est que même si on est effectivement on est forcément soumis à une bonne pratique, voilà, on a quand même plus de liberté dans ce qu'on veut faire et dans ce qu'on pense être le mieux pour les patientes, pour les accompagner toujours au mieux. On a un peu plus de liberté.
Et au cours de nos échanges, on l'a compris, beaucoup de questions relèvent bien sûr du médical, mais aussi du social, du sociétal. Est-ce que vous diriez que à pratiquer le métier de sage-femme, on en devient militante ou militant ?
J'aurais du mal à le dire, c'est-à-dire que oui, forcément, on milite pour le droit des femmes, enfin voilà, le droit des femmes à accéder à une contraception, le droit des femmes à être libres dans le choix de son corps, oui, forcément, mais ça, je pense que c'est inhérent à ce choix de métier. On peut pas choisir de travailler pour la santé gynécologique de la femme sans se poser ces questions-là, en fait, ce droit à la contraception, ce droit à son corps et à en faire et en disposer comme on le souhaite. Donc forcément, je me sens pas militante, mais effectivement, je trouve que c'est important que les femmes deviennent actrices de leur santé. Nous, on est là pour les accompagner, pour les aider à choisir ce qu'elles veulent, mais finalement, c'est elles qui ont le pouvoir, quoi.
Fish are jumping.